Micro-ondes.
Une émission qui vous tient
à contre-courant le samedi
de 13h à 14h.
On vous parle de sujets brûlants,
mais c'est pas du réchauffé.
Une émission qui s'attaque
au racisme,
aux frontières
et aux injustices sociales.
À l'intérieur,
pas de la lutte,
que de la lutte.
En direct sur Radio Campus
90.8
FM ou en streaming sur campusgrenoble.org.
Et en podcast
sur le-tami.info
ou sur le site de Radio Campus Grenoble.
Bonjour, c'est Micro-ondes, l'émission qui vous tient à contre-courant. Alors, Micro-ondes aujourd'hui sur en technique, nous avons Samia, Jeanne. En animation, il y a aussi Jeanne, moi, et Baptiste et Idriss. Et puis, on retrouve les invités qu'on avait la semaine dernière, donc les travailleuses sociales, parce que je peux dire travailleuses sociales, en fait, il n'y a que des femmes sur le plateau. Je vous laisse faire un petit tour de présentation.
Bonjour, je m'appelle Macha et je suis éducatrice spécialisée. En ce moment, je travaille dans une association sur l'accès au logement.
Bonjour, je suis Cécile, je suis assistante sociale de secteur, c'est-à-dire que je travaille sur un secteur géographique et j'accueille tout public.
Bonjour, je suis Odile, je suis travailleuse sociale en psychiatrie.
Bonjour, moi c'est Camille et je travaille auprès d'enfants dans une maison d'enfants à caractère social.
Bonjour, je suis Dominique, je travaille à la PAS, qui est une asso de prévention spécialisée, et je suis sur un service qui s'occupe des enfants en difficulté scolaire. Peut-être pour préciser, je suis par ailleurs syndiquée à la CNT, et aussi je fais partie des collectifs de travailleurs sociaux, travailleuses sociales.
Merci, on reviendra justement aujourd'hui dans cette émission avec nos invités de la semaine dernière qui sont revenus, merci à vous. On se retrouve pendant une heure, donc de 13h à 14h sur le 90.8 FM Radio Campus, pour aujourd'hui poursuivre ce qu'on avait entamé la semaine dernière, à savoir parler du travail social malade. La semaine dernière, on a abordé principalement les attaques et les remises en cause dont fait l'objet le travail social aujourd'hui, et puis les débats que ça soulève au sein du secteur. Ça nous a permis de connaître un peu plus nos invités et de constater qu'effectivement, il est de plus en plus difficile d'intervenir dans le secteur du travail social. Est-ce que, pour repartir aujourd'hui, comme Dominique, tu viens de le faire, on pourrait faire un petit tour de table de nouveau, où vous nous présentez un peu dans quoi vous vous inscrivez pour exprimer cette colère? Comment, aujourd'hui, vous exprimez la colère que vous nous avez expliquée la semaine dernière? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des collectifs? Est-ce qu'il y a des syndicats? Est-ce qu'il y a des groupes? Comment ça se passe?
Alors, moi, c'est Macha. Du coup, je suis diplômée depuis à peu près 10 ans. Mais en fait, j'ai pas mal enchaîné des CDD et des périodes de chômage. C'est toujours le cas aujourd'hui. Là, j'ai un CDD pour le moment de 4 mois. Ce qui fait que j'ai beaucoup trouvé, en dehors du travail social, en dehors de mes postes, en fait, des espaces de lutte avant. Et justement, le fait d'être dans un collectif de travailleurs sociaux, c'est aussi d'essayer de construire quelque chose de l'intérieur du travail social. Parce que je me dis qu'en tant que travailleurs sociaux, on a une légitimité et il y a une force à avoir une parole de travailleurs sociaux sur toutes ces questions-là. Et parce qu'aussi j'ai envie de pouvoir vivre ces valeurs-là dans le cadre de mon travail et pas seulement à l'extérieur.
Odile, est-ce que tu veux nous dire un peu comment ça se passe pour toi?
Alors moi je suis très récemment syndiquée à Sud Santé Sociaux. Voilà, en tout cas c'est en projet pour que je prenne peut-être d'autres fonctions au sein de l'hôpital, voilà, en réflexion en tout cas. Sinon, je fais partie aussi du collectif de travail social depuis l'année dernière. Pour moi, c'est un espace qui est extrêmement vivifiant parce qu'on peut échanger autour de pas mal de choses. Voilà, on peut aussi mener des actions. Moi, ce qui me plaît, c'est la diversité en termes d'expérience de lutte. Je trouve que c'est ça qui est extrêmement porteur, c'est qu'on peut arriver et être tout à fait novice et pouvoir partager à la fois des luttes, des réflexions, des moyens d'action avec des personnes qui ont plus d'expérience.
Alors moi c'est Cécile et en fait au début ça fait 11 ans que je suis au même endroit Et je commençais à être bien fatiguée par ce qui se passait. Et au début, j'ai cherché un moyen de lutter, mais j'étais un peu seule. Et le moyen que j'avais trouvé, en fait, c'était d'essayer d'embarquer des collègues à moi dans l'arrêt maladie, en fait, puisque c'était aussi une façon de faire, à un moment, de dire, pour bloquer la machine, on n'est plus là, on n'est plus sur notre lieu de travail. Et puis, comme ça n'a pas trop pris, j'ai commencé à regarder ailleurs ce qui pouvait se passer. J'étais à côté de ça, j'étais quand même syndiquée depuis pas mal d'années. Et puis là, tout récemment, j'ai changé de syndicat. Et donc, je suis maintenant à la CNT. Quand je peux, je vais au collectif des travailleurs sociaux en lutte. Mais je ne peux pas tout le temps.
Donc moi, Camille, ça fait depuis peu que je fais partie du collectif Travail Social 38. J'ai décidé d'être éducatrice parce que j'étais révoltée, mais dans mon coin en fait. Et là, depuis peu, je me rends compte qu'on est nombreux à être en colère et peut-être que je vais me syndiquer, je sais pas, le collectif, le fait de pouvoir discuter, de pouvoir être entendu, ça fait du bien.
Dominique nous a dit un petit mot. Est-ce que tu pourrais, par exemple, nous définir un peu le collectif travail social ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nos invités qui en font partie. Qu'est-ce que c'est que ce collectif ?
C'est marrant parce que je ne pensais pas du tout être sur la définition du collectif travail social. C'était peut-être juste revenir sur la question des collectifs, qui me semble être une manière assez nouvelle, même si ça fait 20 ans, 30 ans que ça existe, et qui me semble être quelque chose qui est contextuel du délitement même des transmissions de lutte. Moi, je ne suis pas arrivée à la CNT tout de suite, je ne me suis pas syndiquée tout de suite. Je suis vraiment passée par des groupes affinitaires et qui n'étaient pas spécifiques au travail social. Et puis peut-être une expérience qui était quand même importante, c'était le collectif de la patate chaude, où j'ai été au début avec certaines personnes. Où là, ce qui était intéressant, c'était aussi de rencontrer des gens qui n'étaient pas forcément des travailleurs sociaux, mais qui, de fait, faisaient un travail de travailleurs sociaux et en même temps qui avaient la possibilité d'intervenir sur l'espace public. Et je crois qu'à travers ces collectifs, j'ai appris plein de choses. Voilà. Après, la question d'être syndiqué ou pas, c'est compliqué pour moi parce que je fais partie des gens qui se méfient de toutes les structures et qui ont du mal à être affiliés à un endroit particulier parce que j'ai l'impression que ça peut être très restrictif, même si je pense qu'il faut que ça se structure d'une façon plus globale. Et là-dessus, je me dis qu'il n'y a peut-être que les syndicats qui peuvent nous aider à nous structurer d'une façon plus importante.
Moi, pour rebondir sur ce que tu dis, Dominique, donc c'est Macha. Moi, j'ai trouvé, en fait, dans les collectifs dont j'ai fait partie, j'ai aussi fait partie du collectif de la patate chaude et d'autres autour des problèmes rencontrés par les personnes migrantes ou par les personnes sans logement. Et j'ai trouvé que c'était des espaces de liberté pour expérimenter des choses. Alors, bien sûr, ce qui nous a réunis, c'était des choses plutôt négatives. L'injustice sociale, la dureté, la violence de ce que les gens se prennent dans la figure. Mais ensemble, en fait, on a pu aller là où on pensait qu'il fallait aller avec les gens. Et sans qu'à un moment donné, quelqu'un nous dise « non, là, t'y vas pas ». Et je trouve que du coup, on a pu expérimenter ensemble des choses que j'ai pas pu expérimenter aussi loin dans les postes. Et se dire qu'est-ce qu'il est juste de faire, et on peut y aller, on y va.
Oui, avec une radicalité, des fois, qui était plus simple à trouver dans ces collectifs qui étaient à côté que d'une radicalité autour des travailleurs sociaux.
Des collectifs, en France, il y en a beaucoup, des collectifs de travail social, il y en a plusieurs qui essayent de se coordonner. Et du coup, à Paris, les 21 et 22 septembre, il y avait les 3e rencontres du travail social en lutte, rencontres nationales, qui, au départ, pour les premières et deuxièmes rencontres, étaient initiées par ces collectifs, justement, que ça s'est un peu élargi depuis. Et ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un petit montage qui va nous présenter cette coordination et on enchaînera avec un petit morceau de musique qui a été choisi par Cécile. Il s'agit de Luc, le morceau c'est La Sentinelle. Est-ce que Cécile, tu veux nous dire quelque chose sur ce morceau ?
Bah, c'est un morceau qu'elle arrache. Voilà.
On se retrouve après le montage et la petite musique.
La rencontre nationale Travail social en lutte qui a eu lieu le week-end du 21-22, en fait, c'est un réseau qui s'est posé la question de se structurer à l'épreuve de la pratique. Il y a quelques années, on s'est retrouvé un certain nombre de syndicalistes ou non syndiqués ou membres de collectifs devant les assises de la protection de l'enfance à se faire opposer la police. Et on a bien résisté, on avait fait un gros point de fixation, on était 200 ou 300 et finalement on avait réussi à rendre les choses visibles. Et après, on allait faire un petit débriefing avec les gens qui étaient là. Il y avait des gens de Paris, de Nantes, d'Angers et de Lille. Et ce qu'on s'est dit à ce moment-là, c'était en fin 2017, je crois, c'est qu'on se connaissait en fait un tout petit peu depuis un certain temps et que si jamais on était en capacité de se mettre d'accord avant d'arriver sur des lieux de manif comme ça, de type assises nationales, qui sont en fait des grands blabla, des grandes messes patronales qui permettent juste de dire que ce que fait le patronat dans notre secteur, ça fait avancer les choses et de nier en fait le fait qu'il y a un gros problème d'austérité et de privatisation rampante dans le secteur, on s'est dit qu'en fait il fallait qu'on se voit en dehors des temps de mobilisation pour être meilleur dans les temps de mobilisation. Donc ce qu'on a fait cette année, c'est la troisième un peu rencontre nationale. Avant, on appelait ça coordination nationale. On a changé un peu le terme parce qu'on se disait qu'en fait, une coordination nationale de lutte, c'était quand il y avait une grève, en gros une grève générale, quoi, qu'il fallait tendre vers ça. Et que donc, ce qu'on fait, c'est des rencontres de coordination, en gros, pour continuer à tisser ce réseau. L'idée, c'est que ce soit le plus ouvert possible aux syndiqués, non syndiqués et aux syndicats de base. Et l'idée un peu qu'il y a derrière, c'est à la fois d'avoir une vision générale du secteur, mais surtout être en capacité de tirer en avant les luttes et les mobilisations. Aujourd'hui, nous, on considère qu'on est des invisibles qui s'occupent d'autres invisibles et que c'est par nos grèves et nos luttes qu'on peut rendre visible en fait tout ça et les premiers concernés. Donc l'idée de ces coordinations, c'est à notre petite échelle, de manière la plus humble possible, mais en même temps en ayant des vrais objectifs, quoi, parce qu'on a envie de se faire entendre, de faire tout ça. Donc ce week-end à Paris, il y avait des représentants de collectifs de Paris, de Lille, de l'Oise, de Marseille, de Lyon, de Grenoble, et il y avait également des représentants de syndicats locaux de la CGT, de la CNT, de la FSU et de Sud. Moi, j'en suis très content parce que j'ai l'impression que depuis quelques années, en fait, non seulement on se connaît, mais on commence à bosser ensemble et ça commence à être de plus en plus crédible. Et l'idée, bah, c'est qu'un jour, on arrive à sauver notre secteur de sa financiarisation. Et nous, on ne veut pas être des agents du contrôle social, quoi. On veut être avec les gens de notre camp social, aider à l'émancipation de tout le monde. Et pour ça, on pense que ça passera par la grève, la lutte et la lutte commune des salariés et des publics, quoi.
Serait-ce la bête ? passion. Combien leur passion. Avale donc ta rengaine, avale donc tes sanglots. De l'amour ou de la haine, qui donc aura bon dos? Juste cri de guerre, pas en faux frère, mais en son nom. Je donne ma main à l'enfer, sous le crachat ma rédemption. Est-ce que la fièvre est un délit d'opinion? Est-ce que ma peine était un vote de sanction? Et la sentinelle qui trouve réponse à mes questions, serait-ce la bête? Serait-ce la bête? Ou bien l'oppression?
C'est toujours l'émission Micro-ondes sur le 90.8 FM. On se retrouve pour notre deuxième émission sur le travail social. On a écouté un petit montage et on retrouve nos invités. Quelles sont un peu les actions qui sont menées sur Grenoble, par exemple, par le collectif Travail Social?
Alors, Macha, du coup, déjà, avant de présenter un peu le collectif, c'est important de redire qu'il y a eu des choses avant ce collectif-là. Il existe depuis à peu près 2 ans, si je ne me trompe pas, mais avant, il y a déjà eu plusieurs autres collectifs de travailleurs sociaux depuis moult temps. On va dire, moi, ce que je sais, c'est depuis une dizaine d'années. Il y a eu les raisons de la colère, après, il y avait eu Sécheresse en danger, après, il y avait eu LSD, le social en danger, bref. C'est sans cesse, il y a eu des collectifs qui ont fait des choses, puis disparu, puis se sont recréés, etc., etc. Et il y a eu aussi toujours des mobilisations autour de l'hébergement d'urgence, autour du 115, puisque bah, ça fait des années, en fait, qu'il y a des luttes autour des personnes à la rue sur Grenoble et l'agglo.
Oui, il y a à peu près, sur 100 demandes, ils répondent à 90 voire 95, enfin de non-demande prise en compte. Donc les gens qui sont au bout du téléphone, ils ont franchement les boules.
C'est ça, c'est qu'en fait, au 115, c'est le numéro, vous savez, quand quelqu'un est à la rue pour demander un hébergement d'urgence, il peut appeler le 115. Et en fait, les écoutants du 115, aujourd'hui, leur rôle pour beaucoup, c'est de dire « non, désolé, il n'y a pas de place ». Et c'est pour ça que régulièrement, en fait, il y a des mobilisations autour du 115, des grèves, et parce qu'ils dénoncent en fait leur boulot qui perd complètement son sens et le fait que les gens restent à la rue en fait. Et qu'à quoi sert ce service à un moment donné si sur certaines périodes on a 97% de refus en fait des demandes d'orientation. Donc pour présenter un peu le collectif, donc le collectif Travail Social 38, il existe depuis à peu près 2 ans. Ce qu'on s'est dit qu'on y retrouvait, c'était d'abord de ne pas être seul, plutôt justement que l'isolement, de pouvoir se retrouver, de dépasser les situations individuelles qu'on vit dans nos structures pour pouvoir faire des liens, pour pouvoir aussi partager nos constats face à des politiques publiques qui aujourd'hui atomisent des choses et puis enlèvent des moyens. Un deuxième aspect, c'est de pouvoir élaborer, penser, défendre une certaine conception du travail social, une certaine éthique face au démantèlement des politiques publiques, c'est-à-dire aussi de pouvoir porter une réflexion sur nos institutions, sur la manière dont elles fonctionnent, et aussi de pouvoir avoir une parole collective, parce que le travail social, c'est politique. Au-delà de ça, du coup, c'est aussi s'outiller pour faire face aux situations qu'on rencontre chacun et chacune dans nos services et nos structures et utiliser notre intelligence collective pour ça. Et puis, pouvoir aller jusqu'à des actions collectives, c'est-à-dire s'auto-organiser pour aller au charbon, se rendre en soutien quand il y a des collègues qui se mobilisent ou alors pour pouvoir nous-mêmes produire des choses. Et du coup, là-dessus, y a déjà eu des choses qu'on a faites au sein du collectif. Je ne sais pas si d'autres souhaiteraient en parler, parce qu'ici, on est plusieurs à être membres du collectif.
Récemment, on a écrit un communiqué par rapport à la situation des mineurs non accompagnés. Et pour soutenir, en fait, la grève de la DAT. Voilà.
Est-ce que tu peux peut-être expliquer juste c'est quoi la DAT? Ou les mineurs non accompagnés pour des gens...
Alors la DAT, c'est l'association, c'est le service qui héberge et qui accompagne les mineurs non accompagnés. Enfin, c'est un des services parce qu'il y en existe d'autres sur Grenoble et dans l'agglomération.
Odile, je crois que ce communiqué aussi, il avait une volonté aussi de dénoncer et de pouvoir nommer. Ce qui est intéressant de pouvoir faire collectivement, c'est de pouvoir nommer les choses, à savoir des politiques qui sont clairement racistes.
L'autre chose qu'on a faite dans le collectif, c'était aussi de dénoncer en fait la politique départementale qui, depuis l'arrivée de la nouvelle majorité du département, en fait, il y a une casse continue des services médico-sociaux et des associations qui portent une bonne partie du travail social. Et on a donc une fois fait un communiqué là-dessus qu'on a distribué à l'occasion des vœux du département aux bénévoles des associations. Et puis on a aussi participé à la rédaction d'un article dans un journal local, Le Postillon, pour justement pouvoir dénoncer en fait c'est quoi les conséquences des baisses de moyens, des changements d'orientation politique du département.
Alors, juste préciser que c'est pas nouveau, c'est pas parce qu'il y a la nouvelle majorité que tout a changé. Hein. Avant, il y avait des mobilisations du conseil départemental et des services de polyvalence de secteur, des PMI, parce que déjà, c'était en marche sous le PS. Hein. Voilà, c'est pas parce qu'il y a Barbier, bien sûr que c'est peut-être clairement assumé. Avant, c'était moins clairement assumé, mais c'était la même mécanique qui était en marche.
Et justement, comme on parle du conseil départemental, il y a eu une mobilisation dans les services départementaux, donc on en parlait dans la première émission, le 9 avril et le 21 juin, avec des journées de grève. Et on a vu que le 21 juin, il y avait eu même une action devant l'hôtel du département. Comment s'est construite cette grève? D'où elle émane?
Alors, c'est Cécile. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Enfin, je voudrais juste recontextualiser un peu parce que le public des travailleurs sociaux, c'est pas forcément un public qui se mobilise, notamment quand ils travaillent dans une institution. Et que il faut savoir qu'en fait, notre travail est donc basé sur... on va schématiser, mais sur la relation d'aide, et que les travailleurs sociaux ont toujours beaucoup de mal à se mobiliser parce qu'ils disent « si je suis en mobilisation, je ne suis plus en train d'aider les personnes et en fait, je les laisse sur le carreau ». Et les institutions pour lesquelles on travaille, en fait, elles jouent beaucoup sur cette corde-là, à savoir, à un moment, de toute façon, à la fin, on les aura parce qu'ils n'arriveront pas à lâcher leur public. Et je pense notamment aux travailleurs sociaux de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, pour qui c'est encore plus compliqué, j'ai l'impression. Alors moi, je n'y travaille pas, mais je travaille avec des AS de l'aide sociale à l'enfance et je sens bien qu'en fait, c'est toujours compliqué de se dire... Le temps que je passe à mobiliser, je ne le passe pas sur mes mesures et sur des enfants qui peuvent être placés dans des conditions pas possibles. Et pourquoi je parle de ça? Parce que je pense que, clairement, les politiques, en fait, ils s'appuient là-dessus, sur notre capacité à se dire « j'irai toujours plutôt vers l'humain que pour me mobiliser sur un plan collectif ». Et en fait, cette grève au département, elle est venue d'un petit truc tout bête. Un jour, il y a, dans une réunion... d'un centre de service local de solidarité, il y a une hiérarchie qui est venue parler à une équipe et qui clairement a une attitude méprisante par rapport au travail que pouvaient faire les travailleurs sociaux. Et à partir de ce moment-là, ça a été un peu la goutte d'eau et voilà, dans ce SLS, ils se sont retrouvés à se dire en fait, ça ne peut plus continuer comme ça, on ne peut plus continuer à accompagner les gens comme ça, c'est ni fait ni à faire ce qu'on nous demande de faire tout le temps. Et puis, voilà, de là, les agents ont communiqué entre eux et en fait, on est arrivé à ce qu'il y ait environ une centaine d'agents qui soient mobilisés. Donc, sans agents qui se sont dit sur une journée, je laisse les personnes que je suis censée accompagner pour aller travailler quelque chose de collectif, de bloquer la machine, et puis essayer que ça débouche sur quelque chose d'autre, et je crois que ça va le faire.
Ils étaient où, ces agents? Du coup, vous êtes allés...
Comme l'a dit Idriss, on était devant l'hôtel du département, donc sur toute la journée, et puis on a essayé de rencontrer la direction, et ça a été plutôt compliqué. Alors, il y a une délégation qui a été reçue, mais pas entendue.
Macha.
Et bah, du coup, moi j'étais présente aussi en soutien. Enfin, il y avait plusieurs membres du collectif qui étaient là en soutien aux agents du département. Et tu disais que les employeurs en fait, comptent sur la culpabilité d'abandonner les publics, mais il y a aussi des fois clairement de la répression envers les salariés qui se mobilisent. Je me rappelle que ce jour-là, le département, pour le coup, a communiqué d'une manière à délégitimer le mouvement en disant que de toute façon, ce n'était pas tant des agents du département, qu'ils n'étaient pas nombreux, que c'était surtout des gens qui étaient radicalisés, qui venaient d'ailleurs. Et du coup, je me rappelle, ça m'avait marqué, la manière dont ils avaient essayé de délégitimer la parole des agents du département et leur mobilisation. Et puis j'ai un autre exemple en tête, c'était le moment où l'équipe du POPS, du coup une équipe qui s'occupe de la santé des personnes précaires, les salariés en fait refusaient les nouvelles demandes du département qui leur demandaient de prendre en charge, je crois, 80 accompagnements de plus, de plus accompagner tous les publics qu'ils accompagnaient avant, et puis aussi de fournir des listes et des informations d'ordre médical. Donc l'équipe avait refusé des demandes qui étaient pour certaines illégales et pour d'autres pas éthiques. Et suite à ça, le département avait purement et simplement menacé l'Oiseau Bleu, qui est la structure qui porte ce service-là, de supprimer l'ensemble des financements. Donc du coup, la répression aussi, elle compte dans la manière dont on arrive à se mobiliser sur le long terme.
Le montage qu'on écoutait tout à l'heure, il parlait d'une coordination nationale du travail social en lutte. Là, localement, les rencontres ont l'air de se faire, parce que tu disais que le collectif Travail Social était allé soutenir la grève des agents du département. Parce que 90 journées de mobilisation au niveau local sur l'ensemble de la France, ça fait beaucoup, et on a l'impression qu'on ne voit pas trop émerger pour le moment un mouvement national du travail social. Est-ce que c'est un secteur qui a du mal à se faire entendre, à se rendre audible auprès du plus grand nombre pour se rendre existant et médiatique?
Bah oui, ouais. C'est difficile, hein, mais parce qu'on est atomisé comme plein d'endroits, hein, et du coup, enfin, il me semble que dans ce que disaient Cécile et Macha, c'est hyper compliqué de faire collectif, hein, et autant les travailleurs sociaux sont impliqués individuellement dans les accompagnements, autant faire collectif, c'est aussi difficile pour les travailleurs sociaux. Et alors peut-être un des enjeux, ce serait d'arriver à faire une mobilisation plus large, mais on voit même au sein du collectif combien il faut du temps pour se connaître, savoir qu'est-ce qu'on va faire comme action. On voit bien que dans le collectif, il y a des gens qui se disent « Oh, faut prendre le temps d'être sur un vrai consensus », d'autres qui se disent « Non, mais là, il faut y aller, c'est bon, on n'a pas besoin ». Donc il y a tout ça. Mais c'est un vrai enjeu que ça soit que le travail social puisse être aussi audible à l'échelle nationale.
Sauf que je voudrais juste remettre un peu dans le contexte, c'est-à-dire qu'il y a quand même, par exemple, à l'échelle nationale, il y a beaucoup de lois racistes qui peuvent se mettre en place, et qu'à un moment, les travailleurs sociaux, en tout cas ceux qui sont engagés et qui défendent certaines valeurs non racistes, pour le coup, quelque part, il y a tout intérêt à ce qu'ils ne soient pas entendus. Parce que je ne suis pas sûre que le discours non plus, dans le contexte actuel, il intéresse grand monde. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a quand même ça qui pèse beaucoup dans le fait qu'on puisse être invisibilisé. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le jeu. On ne joue pas le jeu quand on dit bah, écoutez, les MNA, il ne faut pas les remettre à la rue. Mais en fait, je ne suis pas sûre que ça dérange tant de gens que ça. Moi, il y a cette question-là aussi que je me pose quand même. C'est qui on a. Nos combats, ils intéressent pas forcément la plus grande partie des personnes de ce pays.
Mais je crois qu'il n'y a pas que la question du racisme. Moi, souvent, je parle plutôt des pauvres. Voilà. Et globalement, c'est la classe laborieuse, alors voilà, prolétaire, prolétarienne, sous-prolétarienne, qui est attaquée. Et il se trouve que, de fait, les gens qui sont dans ces classes-là, c'est quand même pas mal de gens racisés. Et si on l'attrape que sur la forme, alors c'est un peu stratégique. Je me dis que il faut pas qu'on soit que sur la question du racisme. Il faut qu'on soit global, et parce que effectivement, t'as raison. Hein, il y a plein de gens, ils se sentent pas concernés par les MNA. Ils se disent de toute manière, il y a pas de boulot chez nous. Qu'est-ce qu'ils vont faire, voilà. Et si t'as pas de lecture un peu politique et un peu plus globale, et ben les gens ils comprennent que dalle. Hein. Ouais.
Odile, moi je me dis aussi qu'on est quand même peut-être un peu victime aussi d'un discours dominant et médiatique qui vient quand même toujours taper du côté des pauvres, de leurs responsabilités individuelles, hein, quasiment. Ils sont pauvres, c'est de leur faute. Enfin, même d'un discours parfois qui est raciste aussi. Hein. C'est des choses qu'on peut voir. Et du coup, il faut pouvoir faire contrepoids à ce type de discours dominant.
En fait, je trouve, Macha, du coup, on a beaucoup en fait des discours des politiques. Enfin, quand on entend les derniers discours de Macron, qui est juste le dernier exemple qu'on a, mais avant ça, il y en a eu bien d'autres. Enfin, les pauvres fainéants, les RSA chômeurs qui veulent pas bosser, les étrangers qui profitent. Du coup, c'est aujourd'hui de plus en plus présent, et du coup, il y a une opposition des gens entre eux. Qu'il faut qu'on arrive à combattre, en fait, justement, à ce qu'on n'oppose pas les pauvres entre eux en disant, en fait, si tu veux t'en sortir, il faut que t'en accuses un autre à ta place, quoi. Parce que je vois, je pense, par exemple, aujourd'hui, je pense que c'est pas facile d'être chômeur et d'être chômeuse, parce que y a une vision hyper négative de ta situation où tu te retrouves à devoir te justifier tout le temps auprès de tes proches. Et ça, c'est hyper véhiculé par tous les discours qu'on entend. Je me rappelle qu'il n'y a pas longtemps, il y a une fédération des acteurs de la solidarité, qui s'appelle donc la FAS, qui avait fait une campagne d'affichage, une campagne de communication pour aller à l'encontre de ces préjugés et les démonter. Non, les étrangers ne touchent pas plein d'allocs. Non, les RSA, c'était les chômeurs, ne sont pas pétés de thunes et ne vivent pas mieux que les gens qui bossent. Et du coup, on en est là à devoir casser les préjugés, les idées reçues sur les étrangers et les pauvres, quoi.
On va écouter un petit montage sur un autre secteur en lutte, qui est celui des urgences. C'est un reportage qui a été réalisé par Jeanne sur cette mobilisation des urgentistes. On va écouter ce montage et on va l'enchaîner avec une petite musique de ZEP, Zone d'expression populaire.
On va commencer par la musique.
C'est ce qui
était prévu, je crois.
Donc une petite musique, c'est Bezef de ZEP, puis le montage sur la grève des urgentistes, et après on revient ici pour les réactions et continuer la discussion.
Pas de connard dans ma secte, y'en a pas. Si t'es pas clean, t'es pas net, tu rentres pas. Pas de facho dans ma secte, y'en a pas. Si dans ta tête t'es à droite, tu rentres pas. Pas de connard dans ma secte, y'en a pas. Si t'es pas clean, t'es pas net, tu rentres pas. Pas de facho dans ma secte, y'en a pas. Si dans ta tête t'es à droite, tu rentres pas.
Les donneurs de leçons seront plutôt mal reçus. Les je sais tout plutôt malvenus. Pour les faux culs, l'entrée défendue. Comme ça on évitera tout malentendu. Pas de restart, ni gourou dans ma tribu. Dans ma secte y'a que des inconnus. Que des glandus, des bossus et des foutus. Des déglingos, des exclus, des mal conçus. Des incoups, qui j'tahais le pied nu. Des incoups, avec les cheveux crépus. Des rappeurs, qui sur l'instru. Des révolutionnaires, obstinément têtus. Des cassos, comme t'en as jamais vu. Des types chelous, qui sortent de garde à vue. Du bruit et des odeurs, qui viennent de la rue. Et des slogans de prolos, militants jamais vaincus.
Pas de connard dans ma secte, y'en a pas. Si t'es pas clean, t'es pas net, tu rentres pas. Pas de facho dans ma secte, y'en a pas. Si dans ta tête t'es à droite, tu rentres pas. Pas de connard dans ma secte, y'en a pas. Si t'es pas clean, t'es pas net, tu rentres pas. Pas de facho dans ma secte, y'en a pas. Si dans ta tête t'es à droite, tu rentres pas.
Je sais, je suis un peu sectaire. Un peu rigide, oui, un petit peu méfaire. Pas très sociable, non, un peu réfractaire. Mais les gros cons, impossible de m'y faire. Impossible de séparer le politique de l'intime. Le facho n'aura jamais mon estime. Mes ennemis, je les éduque en combattant. Et en leur parlant gentiment à la mi-temps. Si toi être civilisation supérieure. Et toi voir moi sauvage inférieur. Si toi être plus beau. Et toi tout savoir. Si toi être lumière. Et moi petit barbare. Si toi expliquez-moi. Pas mettre le chat d'or. Qu'il faut manger du porc. Et pas prier dehors. Si toi condescendant s'adresse à moi comme un clébard. Moi donner à toi un coup dans la mâchoire.
Pas de connard dans ma secte y'en a pas. Si t'es pas clean t'es pas net tu rentres pas. Pas de facho dans ma secte y'en a pas. Si dans ta tête t'es à droite tu rentres pas. Pas de connard dans ma secte y'en a pas. Si t'es pas clean t'es pas net tu rentres pas. Pas de facho dans ma secte y'en a pas. Si dans ta tête t'es à droite tu rentres pas.
Dans ma secte on a l'esprit critique. On déconstruit, on décortique au discours dominant. Ma clique est allergique si t'es contaminé. Mais tu restes au portique, mais attention à toi. Message aux humanistes.
Dans la suite des mobilisations du secteur de la santé en France, retour sur l'appel à rassemblement des personnels de santé à Grenoble, jeudi 26 septembre, place Félix Poula.
Je suis infirmière aux urgences. Nous revendiquons encore aujourd'hui parce que nous estimons que les conditions d'accueil de nos patients n'est pas suffisamment humaine, parce qu'il nous manque de lits, parce qu'ils restent sur des brancards, et que rester 20 heures sur un brancard, ben, c'est pas possible en fait. On demande plus de personnel, alors pas forcément que sur les urgences, mais sur tous les services hospitaliers, et une revalorisation aussi salariale.
Et comment s'organise la lutte exactement ?
Au début, c'est une date nationale et après, localement, on essaye de se regrouper pour essayer de se faire entendre, parce qu'on ne peut pas aller tous sur Paris, parce qu'on ne peut pas aller tous sur Lyon. Et là, il y a des infirmiers des urgences, il y a des médecins du SAMU, des aides-soignants, des infirmiers de n'importe quel service de l'hôpital. Là, il y a des agents des EHPAD aussi qui sont là. Pas qu'en soutien, hein, pour dire que aussi leurs conditions de travail se dégradent et leurs conditions de soins se dégradent aussi. Et c'est pas avec 100 euros, en fait, qu'on va fermer les yeux sur les conditions de soins de nos patients.
On est en manque d'effectifs, on est en manque de moyens, on a besoin de la population.
Je m'appelle Frédéric Bologna, je suis représentant départemental du syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs de l'Isère. On est là aujourd'hui parce qu'on a une convergence des luttes avec le collectif Urgence SAMU de l'hôpital, parce que ce qu'ils vivent nous impacte directement au niveau du département, parce que la prise en charge des victimes nous impacte directement. On manque de ressources pour mener à bien toutes les missions, puisqu'on est le dernier rempart quand il n'y a pas d'ambulance privée, quand il n'y a pas de docteur, quand au vu de la démographie croissante, du vieillissement de la population, dès qu'il y a un souci d'ordre médical, le SAMU n'a d'autre choix que de déclencher les sapeurs-pompiers, puisque c'est les seuls qui restent encore disponibles H24, 365 jours par an sur l'ensemble du département. Et donc, on a une sollicitation en outrance. Alors, c'est des missions qui, normalement, ne nous incomberaient pas. On ne refuse pas de les faire. Cependant, pour les faire, il faudrait qu'on nous donne les moyens humains d'intervenir. Et de ce fait, on est mobilisé avec les urgences parce qu'on a un combat commun, défendre la qualité de la distribution des secours sur le département, défendre nos services publics qui sont des remparts face aux problématiques sociales. Aujourd'hui, on est très mobilisé dans les casernes, mais vous avez essentiellement là aujourd'hui des pompiers qui sont en position de repos, parce que compte tenu de notre manque de personnel, les effectifs sont réquisitionnés pour distribuer les secours sur l'agglomération et sur le département. Là, vous avez essentiellement des pompiers qui viennent au contact de la population pour leur faire signer une pétition qui sera envoyée au président de la République. Après, tout ce qui est des problèmes des urgences, on ne dépend pas du même ministère. Par contre, les politiques locales, contre le président du conseil départemental, le président de la métropole, eux sont directement concernés par les moyens dévolus pour les sapeurs-pompiers. Et donc, c'est à eux à prendre acte des problématiques qu'on rencontre, de la souffrance que les agents ont, parce qu'on ne peut pas mener à bien les missions sur tous les départements avec le peu de ressources qui nous est alloué.
Moi, je suis là parce que je pense que c'est important de faire converger les luttes, que de toute façon, c'est des vases communicants, qu'à un moment, quand on attaque un service public, il y a des conséquences pour tous ceux qui travaillent dans le même secteur. Voilà. Donc nous, dans les EHPAD, nous, on vient d'un EHPAD qui est associatif, pour l'instant avec un meilleur traitement que ceux qui sont dans le public. Mais voilà, on voit les choses progresser, on voit les aides financières diminuer et on voit notre accompagnement se dégrader. Donc on sait très bien que si à un moment les gens sont pas bien traités aux urgences ou pas accueillis convenablement, et ben on va faire en sorte de les maintenir en EHPAD, qu'il n'y aura pas forcément l'accompagnement adapté en cas d'urgence et qu'on a tous intérêt à ce que ces services-là fonctionnent bien avec le monde qu'il faut.
Sur l'hôpital, il faut arrêter de montrer que les grandes opérations vitrines avec les ordinateurs qui opèrent tout seuls. Agnès Buzyn, par exemple, elle nous propose dans ses 750 millions de créer des directeurs placement des malades. Mais ça existe déjà dans les hôpitaux. Sauf qu'ils veulent développer ça. Ils vont se donner des moyens pour faire sortir les malades plus vite. Donc, ils ne créent pas les lits comme on réclame. Ils ne créent pas les effectifs comme on réclame. Ils ne revalorisent pas les métiers. Enfin, il n'y a rien qui correspond à toute la souffrance qu'exprime le personnel, parce que je rappelle que le mouvement il est parti parce que le personnel se fait agresser dans les urgences, parce que les malades ils meurent sur les brancards dans les urgences. Voilà, c'est ça la réalité quotidienne.
Et vous, vous faites quoi exactement? C'est quoi votre métier?
Moi je suis kiné, je m'appelle Marc. Mais bon, je suis à la retraite depuis quelques mois. Mais ceci dit, je continue à soutenir mes collègues et à militer syndicalement pour défendre l'hôpital public.
Merci. Vous, vous êtes du SAMU ?
Urgence SAMU.
Urgence SAMU. Est-ce que vous pouvez me parler du SAMU, en fait ? Comment ça se passe ? C'est quoi les conditions ? Et pourquoi vous êtes là aujourd'hui ?
Nous, au niveau local, on a un SMUR, donc il faut dire que l'équipage SMUR est ponctionné sur le service d'urgence. Donc dès que l'équipage est absent, il y a un manque d'effectifs supplémentaires aux urgences. Donc c'est des agents qui sont comptés dans l'effectif des urgences, mais s'ils partent en intervention, du coup, il y a un manque de soignants aux urgences. Donc en fait, on est sur deux postes à la fois. Après, les SAMU, eux, ils sont aussi en difficulté au niveau régulation parce qu'ils ont la médecine de ville qui est en difficulté. Donc les gens les appellent, donc ils ont beaucoup de demandes à traiter. Et là, ils sont en difficulté par rapport à ça. En fait, il y a des SAMU aussi qui font que ça, que du SMUR. Donc eux, ils manquent pas dans les services d'urgence. Mais nous, on fait partie du service d'urgence. On a deux emplois.
Et donc vous êtes infirmière, c'est ça ? Et infirmière où ?
Je suis infirmière en rééducation neurologique à l'hôpital Sud. Donc on dépend aussi du CHU de Grenoble, ça en fait partie. Et nous aussi, on est en grande difficulté, comme tout l'hôpital. Les urgences sont la vitrine de l'hôpital public en France. Tout le monde passe plus ou moins par les urgences avant de rentrer à l'hôpital. Aux urgences, ils concentrent la totalité des difficultés qu'il y a sur l'ensemble de l'hôpital. Mais du coup, tout l'hôpital est en souffrance. Nous, en rééducation, on l'est aussi. On a été pendant 9 mois en sous-effectif, la plupart du temps non remplacés. Ce qui veut dire qu'on revenait sur nos temps de repos. On faisait parfois des journées de 12 heures à la place des journées de 7h30. Les aides-soignantes remplaçaient une infirmière, alors que ce n'est pas du tout le même travail qui est demandé. Et on voit que de moins en moins, lorsqu'on a des manques d'effectifs, la direction nous alloue des remplaçants, que ce soit par le service du pool ou par le service des intérims.
Le pool, c'est quoi ?
Le pool, c'est le service de remplacement de l'hôpital. L'hôpital public n'est pas assez attractif pour les nouveaux professionnels. Plus personne n'a envie de venir travailler à l'hôpital public. L'argent ne fait pas tout. C'est pas parce qu'on est mieux payé qu'on soignera mieux. Mais en tout cas, lorsqu'on est mieux payé, lorsqu'on est considéré dans notre travail, ça nous aide à mieux tenir en charge notre service, à mieux prendre soin des patients. Et on arrive plus serein à l'hôpital. Et là, maintenant, on n'arrive pas du tout serein dans les services parce qu'on sait que forcément, il va manquer quelqu'un dans le service, qu'il ne sera pas remplacé et que malgré tout, le travail devra être fait. Nous, le travail, il faut qu'il soit fait dans tous les cas. Les patients, il faut qu'ils aient leurs soins, il faut qu'ils aient leurs médicaments, il faut qu'ils aient leurs toilettes de fête, il faut qu'ils aient leurs soins de rééducation. Et dans tous les cas, qu'on soit 5 à la place de 6 le matin, et bien, le travail, il est fait de la même façon. Et ça, l'hôpital public et la direction l'ont bien compris parce qu'ils savent que dans tous les cas, on a notre conscience professionnelle. Ils savent que le travail, il sera fait. Même plus maintenant, ils réfléchissent à savoir pourquoi ils ne remplacent pas, puisque de toute façon, ils savent que le travail, il sera fait.
Micro-ondes. Sur Radio Campus 90.8, une émission qui vous tient
à contre-courant.
À l'intérieur, pas de l'alu, que de l'alu.
Le samedi, de 13h à 14h.
On se retrouve sur le plateau avec nos invités après avoir écouté ce montage sur ce reportage sur la lutte dans la santé. Macha, je crois que tu avais une réaction.
Oui, par rapport au reportage, du coup, dans le travail social aussi, on a de plus en plus des directions, des chefs qui sont issus du management et qui développent des outils gestionnaires qui répondent pas du tout aux besoins remontés du terrain, mais qui, par contre, qui permettent de développer des évaluations quantitatives et aussi de renforcer le contrôle social avec tous les fichiers qui sont développés et toutes les données qui sont reprises sur les gens. Et à la coordination en Île-de-France à laquelle on a participé de travail social, on voit que ça sert une marchandisation du travail social pour le rendre privatisable comme tous les autres secteurs.
On voit bien qu'on est sur les mêmes problématiques que presque partout et au niveau du service public. Juste pour illustrer, moi je bosse donc sur Échirolles, je travaille très en lien avec les assistantes sociales du SLS. Et il y a une assistante sociale qui vient de partir et elle m'a dit je sais pas quand je vais être remplacée. Je fais t'as vu les situations qu'on accompagne, c'est quand même des gens qui sont, il y a beaucoup de complexité. Elle me dit mais le problème c'est que on va pas pouvoir les prendre en charge parce que toutes celles qui sont en poste, elles ont déjà récupéré les situations qui étaient déjà hyper complexes. Ça fait que je me retrouve à faire des trucs que normalement ça devrait être l'assistante sociale qui aurait dû le faire. Parce que je suis en attente qu'il y ait du personnel au SLS.
Un exemple, juste quand on parle de marchandisation sociale, parce qu'il y a des collègues qui pourraient dire « mais de quoi tu parles ?» Quand on était à la coordination, des collègues d'Île-de-France nous ont dit que là, récemment, la Banque Postale avait postulé sur un appel à projet pour pouvoir remplir les dossiers d'AO, c'est-à-dire les dossiers quand les gens sont à la rue et demandent un hébergement d'urgence. Donc voilà, on en est quand même là, et je trouve que c'est des exemples qui font du bien, parce que ça fait mesurer en fait ce qui peut se passer demain dans tous les territoires.
Puis on voit arriver les fondations privées au niveau du travail social. Ça, c'est un truc qui est un peu nouveau. Donc, c'est grave quand on dit... Enfin, une convergence des luttes paraît essentielle, mais il faut avoir en tête tout ça.
Convergence des luttes avec le secteur de la santé, par exemple, avec ces autres secteurs-là qui sont attaqués de la même manière.
Oui, alors après, peut-être qu'on pourrait même aller plus loin, le service public d'une façon générale, quoi, où on sent bien que... Pourtant, je suis pas très... Vous avez vu, peut-être vous vous rappelez pas, je suis syndiquée à la CNT. La question de l'État, elle est toujours très compliquée au sein de la CNT, mais on se dit que quand même, le service public, c'est une bonne redistribution des richesses, et s'il est attaqué, eh ben, ceux qui vont en pâtir en premier, c'est les gens qui ont le moins de ressources financières.
Ou dont se désintéressent les politiques publiques. Parce qu'aujourd'hui, on voit, en fait, il y a déjà des gens qui se font sortir progressivement du travail social. Il y a déjà, en fait, des gens qui ne sont pas du tout pris en charge par le travail social. Et heureusement qu'il y a des associations, qu'il y a des groupes militants à côté qui se bougent sur la question. Là, on voit, par rapport aux mineurs isolés étrangers, le but, à un moment donné, c'est de les faire considérer comme des étrangers plus que comme des mineurs, pour qu'un jour, en fait, finalement, on légitime le fait de plus s'occuper d'eux. Donc si demain on va vers plus de marchandisation et de privatisation du secteur, il faut bien se dire que les pauvres, les étrangers, les chômeurs, plein de caractéristiques qu'on peut avoir un jour ou l'autre aussi, c'est pas du tout sexy, c'est pas ce qui intéressera le privé.
On arrive à la fin de notre deuxième émission sur le travail social. On va passer au bref présenté par Baptiste cette semaine.
Et en effet, une première brève du coup sur le procès de personnes solidaires. Donc le 4 octobre dernier et le 24 octobre prochain ont lieu en effet des procès en appel à Grenoble de deux personnes qui sont du coup accusées de délits de solidarité. Leur premier procès ayant eu lieu le 10 janvier 2019 à Gap et ayant ordonné des peines de prison. Si la cour d'appel se montrera peut-être plus clémente avec les personnes solidaires cette fois-ci, elle n'a en revanche pas été plus humaniste comme certains l'ont commenté. D'abord parce qu'elle s'est montrée toujours aussi dure avec les deux autres personnes inculpées qui passaient en appel le même jour, mais qui elles étaient des personnes racisées, maghrébines et beaucoup moins soutenues publiquement. Avec elles, la cour d'appel ne s'est pas montrée plus humaine, loin de là. Mais ensuite parce qu'elle a tout fait finalement pour éviter un procès politique, en coupant la parole aux personnes solidaires et en refusant d'élargir le procès au-delà de l'affaire qui était à ce moment-là jugée en appel, au-delà des faits qui étaient jugés. Comme c'était le souhait des personnes inculpées, on profite ici de cette émission de radio pour élargir le procès à un contexte un peu plus large et on va du coup vous lire quelques extraits du tract qu'ils avaient écrit à l'occasion de leur premier procès en janvier dernier. Ce texte s'appelle « Aux frontières de l'exploitation ». Ce 10 janvier 2019, deux camarades comparaissent devant le tribunal correctionnel de Gap. Ils sont accusés d'aide au passage illégal de la frontière franco-italienne dans les environs de Briançon. Il n'y a pas lieu de s'en indigner ni même de s'en étonner. Le contrôle aux frontières des marchandises et des humains, admis ou non à les franchir, est une prérogative exclusive et essentielle des États, qui s'incarne au quotidien dans la persécution et la mise en danger par les forces de l'ordre des personnes qui tentent de rentrer et de séjourner en France sans les bons papiers, qui se traduit aussi par la conclusion d'accords avec les chefs de guerre libyens, le roi du Maroc et autres dictatures turques ou soudanaises. Le concept, l'externalisation des frontières. Les conséquences, des dizaines de milliers de vies englouties par le désert et la mer, le viol des femmes et la torture systématisée, l'internement de masse dans des camps de concentration, l'esclavage. De Khartoum à Calais, des barbelés au camp libyen, aux patrouilles nocturnes de flics dans la montagne, une seule et même politique. Quiconque entend contester ce monopole du contrôle des frontières par l'État s'expose à une réaction du pouvoir. Réaction qui s'exprime dans ce tribunal, par la voix du procureur et la future sanction des juges. Dans ce système monde, la répression prend des formes multiples. Elle est économique, policière, pénale, plus ou moins systématique et brutale selon la position à laquelle on est assigné dans l'échelle des dominations. L'histoire des pays colonisés renferme son lot de souffrances et d'exploitations outrancières, de racisme, de négation de l'individu, de guerre et de domination des puissances européennes. Les monopoles industriels ou financiers occidentaux ont pu, grâce au soutien des États et de leur armée, par l'influence et la corruption des possédants locaux, des colonies ou ex-colonies, s'approprier toujours plus de matières premières pour accroître leur production, s'abreuver de marchés juteux, dans des régions où les coûts sont bas, le droit salarial quasiment absent et l'exploitation quasi esclavagiste. Les migrations vers l'Europe, si marginales qu'elles soient par rapport aux mouvements migratoires dans le monde, ont généré un bruit médiatique phénoménal ces dernières années. Ces candidats à l'intégration représentent une aubaine à plusieurs titres. Bouc émissaire parfait dans une période de rhétorique d'insécurité permanente, ils permettent d'acheter et de fabriquer l'électorat de l'extrême droite. Ils justifient ensuite de renforcer aux frontières intérieures et extérieures de l'Europe et sur tous les territoires possibles l'emploi de matériel et de moyens de surveillance, contrôle, répression, enfermement, etc. Un terrain de jeu et un marché lucratif pour l'industrie de l'armement. Les nouveaux arrivants représentent enfin une main-d'œuvre idéale. Arriver auprès de l'employeur à ses propres frais, à un prix défiant toute concurrence locale, sans protection sociale ni sécurité au travail, rendu docile par les difficultés de parcours et jetable dès qu'elle n'est plus utile. Le patronat ne s'y trompe d'ailleurs pas lorsqu'il affirme la nécessité de cette migration corvéable à merci. Comment pourrait-on alors encore aujourd'hui penser que l'immigration représente un problème alors qu'elle contribue à la croissance, si ce n'est pour s'assurer que les exploités soient ainsi mis en concurrence? Ni ici, ni ailleurs, nous ne voulons qu'une infime minorité prenne les décisions, accumule les richesses extorquées. Ni ici, ni ailleurs, nous ne pouvons ignorer le carnage. Mais une perspective où l'on aide une autre personne, quand tant d'autres restent livrés à eux-mêmes, peut-elle suffire? Peut-on imaginer nous extraire du carnage, nous émanciper collectivement, autrement que dans une lutte commune? Peut-on faire autrement que lutter dans chaque situation où nous percevons nos intérêts communs pour les réaffirmer et nous libérer ensemble à partir d'une conscience de conditions communes entre exploités et face aux exploiteurs? Voilà du coup quelques extraits du texte donc, que les personnes inculpées pour délit de solidarité.
Il y a aussi une deuxième brève sur le référendum d'initiative citoyenne qui va se dérouler à Arlequin contre les démolitions.
Pour ou contre les démolitions des logements sociaux de l'Arlequin? C'est la question qui sera posée du 14 au 20 octobre aux habitants de la galerie de l'Arlequin, à la Villeneuve. Cette question sera posée à travers un RIC, un référendum d'initiative citoyenne, outil revendiqué par les Gilets jaunes depuis bientôt un an. Et sera organisé par la table de quartier et le collectif contre les démolitions imposées. Ce RIC, c'est une nouvelle tentative de faire entendre la voix des habitants face à un projet de rénovation urbaine de l'ANRU qui prévoit la démolition de 600 logements sociaux d'ici à 2021. C'est pour rappel une nouvelle tentative après déjà deux pétitions contre les démolitions, dont la deuxième a recueilli les 2000 signatures qui auraient dû lancer le processus de votation citoyenne proposé par la ville de Grenoble. Cette votation citoyenne, elle n'a finalement pas eu lieu puisque ce dispositif a été annulé par le tribunal administratif de Grenoble. Pour cette fois, la ville de Grenoble n'a pourtant pas saisi l'occasion de mettre en application sa logique de participation citoyenne qu'elle prône et a refusé de donner aux habitants les moyens logistiques d'organiser le RIC, prétextant la période préélectorale et affirmant ne pas vouloir, je cite, « remettre en question les avancées de la Convention ANRU ». C'est donc grâce au coup de main des différents collectifs impliqués et des comités de Gilets jaunes que ce premier référendum d'initiative citoyenne grenoblois pourra avoir lieu du 14 au 20 octobre. Trois bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h pour collecter les voix des habitants majeurs de la galerie de l'Arlequin, dont un bureau fixe au patio, et donc pour répondre à la question pour ou contre les démolitions des logements sociaux de l'Arlequin. Si vous avez envie d'y participer d'une façon ou d'une autre, sachez que les organisateurs cherchent des bénévoles pour tenir les bureaux de vote et qu'un événement festif aura lieu le 12 octobre au patio, donc 97 galeries de l'Arlequin, avec un concert et une assemblée populaire.
Et maintenant, quelques mots pour l'agenda. Prenez vos stylos. Donc, le samedi 12 octobre, à partir de 16h, il y a le concert et l'assemblée populaire sur le RIC, sur les démolitions des logements dans le quartier de l'Arlequin, donc qui est organisé par le DAL et par le PATIO, au 97 Galerie de l'Arlequin. Nous avons également le mardi 15 octobre, à 20h, une projection débat. Ici, on noie les Algériens, le 17 octobre 1961, de Yasmina Hadi, au Méliès, organisé par la LDH. Le 2 jours plus tard, donc le jeudi 17 octobre à 18h, un rassemblement du souvenir à la mémoire des militants algériens algériennes massacrés le 17 octobre 1961 à Paris. Donc cet événement sera place Edmond Arnault, à l'appel du CSRA, collectif de soutien aux réfugiés algériens algériennes, Ralfron Isère, Lamal. Donc nous aurons également le vendredi 18 octobre une soirée court-métrage DIY, donc sans moyens financiers, à la BAF, 2 chemins des Alpins. Donc à 19h, il y aura le repas et 20h30, les projections. Vous êtes tous et toutes invités à venir en pyjama. Le mardi 23 octobre, soirée de soutien aux 3+4+2 personnes de Briançon qui sont en procès pour le délit de solidarité. C'est à 20h à Antigone, 22 rue des Violettes à Grenoble. Le mercredi 24 octobre à 13h45, c'est l'appel au tribunal de la personne de Briançon pour délit de solidarité. Donc il y a un appel à rassemblement et un repas partagé devant le palais de justice. Et pour finir, le 2 novembre à la BAF, donc qui est organisé par la BAF et en soutien, la coordination contre les frontières, le journal mural Murmure, qui organise toute une journée. Alors à 10h30, c'est le petit déjeuner des terres, écoute collective de témoignages de lutte. 13h30, tournoi de foot. À 17h, projection de documentaire, puis dîner. Et la soirée continuera avec une discussion-concert avec Martial Panucci, musicien et activiste congolais. Puis une boum. Donc ça se passera tout ça à la BAF de Chemin des Alpins et la soirée est à prix libre. Donc si vous avez des informations que vous voulez qu'on diffuse, n'hésitez pas à nous écrire sur Facebook. Donc c'est Micro-Ondes Radio Campus, il me semble. Et si vous souhaitez nous envoyer un mail, c'est micro-ondes@grezi.org. Vous pouvez retrouver toutes les informations de l'agenda et ainsi que les autres émissions sur le tamis.info. Et on se retrouve la semaine prochaine.
On conclut l'émission micro-ondes, donc les 2 émissions sur le travail social avec nos invités. Merci beaucoup d'être venus.
C'était chouette.
Une session riche sur le travail social. Et on termine donc avec Odile pour les actus et les prochaines dates du collectif Travail Social et le contact.
Oui, alors n'hésitez pas à nous rejoindre. On va se réunir donc à la Bourse du Travail, à côté de Grand Place, le 15-10 à 18h, donc le 15 octobre, le 14 novembre et le 16 décembre. Si vous voulez nous contacter, on est joignable à Collectif Travail Social 38, donc tout au singulier, @grezi.org. Voilà, n'hésitez pas.
Et le collectif, il est ouvert à toute personne concernée par le travail social, syndiquée ou non?
Oui. Allez, à bientôt.
Merci.
Ah bah ouais, au revoir. On suivra vos luttes.
Super.
Vous nous enverrez vos nouvelles?
Oui,
ouais. On fera ça.
C'est prévu.
Au revoir.
Et allez, au revoir.
Au revoir. Et on se quitte du coup sur Somos Sur, un morceau d'Anna Tijoux.
Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza tuya y mía. Levantarnos para desollevar. Ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Somalia, México, República Dominicana, Tanzania, fuera Yanqui de América.
بده الرضع صار الوضع بده الردع لكل اكيد بتحرر مستوطن